Alors bonsoir, ici Autre Radio, Autre Culture. Ce soir, le sujet abordé est d'actualité, c'est l'aliénation des œuvres d'art dans les collections publiques. Alors pourquoi un tel sujet ? D'abord parce que notre ministre, Madame Albanel, en a parlé il y a à peine une semaine. Et ensuite, parce qu'il y a eu quand même pas mal d'émissions qui ont été faites sur France Culture et dans d'autres, et des articles dans les journaux. Alors ce soir, nous avons plusieurs personnes. Nous avons Bruno Hébert. Bonjour Bruno.
Bonsoir.
Mélanie Hébert.
Bonsoir.
Vivien Richard.
Bonsoir.
Ségolène Leboulicot.
Bonsoir.
Claude Costiou.
Bonsoir.
Et Karine.
Bonsoir.
Alors la première question que l'on va se poser, c'est qu'on fait cette émission par rapport à une proposition de loi qui a été déposée il y a quelques mois. Et moi j'aimerais bien savoir ce qu'est cette proposition de loi, Karine.
Alors, cette proposition de loi est très succincte, c'est-à-dire qu'elle ne comporte que deux articles et elle propose de distinguer deux catégories d'œuvres acquises par les musées. Les trésors nationaux qui resteraient à caractère inaliénable, des œuvres libres d'utilisation que les musées seraient susceptibles de revendre. Tout ça afin de gestion, d'autonomie financière accrue des musées. Puisque la loi s'appelle, si je ne m'abuse, la proposition de loi s'appelle pour une davantage d'autonomie financière des institutions muséales.
Alors, je sais qu'en regardant un petit peu toutes les discussions qu'il y a eu sur Internet, je sais que ce projet de loi est une proposition. Cette proposition de loi est très très discutée et très décriée par beaucoup de conservateurs de musées. Plus particulièrement par Françoise Cachin. Elle a demandé...
Une pétition.
Voilà, merci. Des pétitions. Il y a eu plus de, je crois, 5000 signataires contre, justement, l'aliénation. Bruno m'a dit tout à l'heure, moi je trouve ça bien. Alors pourquoi Bruno ?
Moi j'avais un avis qui était un peu différent du fait des gens qui refusent a priori de regarder ce projet, parce que quand j'entendais aliénation, je pensais plutôt à des possibilités, d'échange par exemple avec d'autres musées étrangers. Par exemple, pour développer en France des collections qu'on ne pourra jamais développer sur des arts qu'on n'a pas eu la chance d'acheter à des époques où c'était disponible. Je ne vais pas rentrer dans des exemples, mais on pourrait avoir plus de peintres espagnols qu'on n'aura pas, parce qu'ils sont tous dans les musées espagnols, contre des peintres français qui n'auront pas, parce qu'ils sont tous dans les musées français. C'est un premier exemple. Donc pour moi, le terme d'inaliabilité me semblait un peu fort. C'était un peu dire on regarde rien, on veut rien savoir, et c'est bouclé. C'est bouclé parce que c'est rentré dans les musées il y a un siècle, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a eu une donation, parce qu'il y a eu un achat, et puis voilà, on n'y touche plus, on ne regarde plus. Je trouvais que c'était une position de principe qui était un peu insensée, c'est-à-dire ne pas vouloir regarder le monde, ne pas vouloir regarder ce qui est ailleurs. Et l'autre point sur cette inaliabilité, c'était des pays comme la Chine, par exemple, puisque ça fait toujours peur à tout le monde, qui ont une forte demande de culture française, qui n'ont pas de musée avec des œuvres françaises, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas en état de les acheter, puisqu'ils étaient eux-mêmes colonisés, et qui aujourd'hui sont demandeurs. Et donc pourraient également se porter acquéreurs de, on dirait, des fonds de collection qui ne nous servent pas, nous, qui sont dans des greniers, dans des réserves, et qui pour eux pourraient permettre justement ce rayonnement de la peinture française. Donc voilà pourquoi, a priori, de la peinture, on dit peinture, ça peut être tous les autres arts, mais... Et donc, je pensais que il fallait pas rejeter a priori cette idée.
Alors, pour toi, ça serait pas gênant qu'il y ait vente ?
Vente, cession, prêt à très long terme, pourquoi pas, oui ?
Oui, je voulais dire, justement... Il y a quand même une grande différence entre la vente et un prêt à long terme.
ça n'a pas du tout la même incidence de vendre une œuvre ou de la prêter. Je pense qu'effectivement, prêter à la Chine ou à d'autres pays, c'est une très bonne idée. Enfin, pourquoi ça ne pourrait pas juste se situer dans le cadre d'échanges entre différents pays? Pourquoi il faudrait vendre les œuvres, en fait? Après, je suis bien d'accord que dans les réserves, il y a beaucoup d'œuvres qui ne sont même pas vues des Français. Donc finalement, effectivement, pourquoi on les garde en France? Mais après, est-ce que ça ne pose pas un problème aussi pour l'intégrité de certaines collections?
Parce qu'on sait que, par exemple, les prêts d'Atlanta pour le Louvre avaient rapporté 13 millions d'euros. Et on sait qu'il est envisagé pour le prêt des œuvres pour Abu Dhabi, on en parlera tout à l'heure avec Bruno, il est envisagé 1 milliard d'euros de recettes rien que pour le Louvre.
Juste préciser que ça n'est pas que pour le Louvre, c'est une enveloppe qui va être affectée à la direction des musées de France.
Oui.
Et qui sera répartie entre plusieurs musées, parce que ce projet d'Abu Dhabi a donné lieu à la création d'une entité qui s'appelle France Musée, si je ne m'abuse, et donc qui regroupe plusieurs institutions muséales et notamment les grands établissements publics de la région parisienne en partenariat. Et donc ça n'est pas le Louvre qui va obtenir ces 13 millions d'euros, ça va être l'ensemble des musées en France, des musées de France.
Bah, c'est encore mieux finalement.
Bah, c'est encore mieux, oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr, mais c'était pour préciser que on n'est pas dans le cadre d'un partenariat d'un musée à un autre.
D'accord, c'est pas, en fait, c'est ce milliard d'euros qui va arriver avec Abu Dhabi ne concerne pas uniquement le Louvre et l'étiquette Louvre telle qu'on l'entend. Voilà.
Donc ce qui peut être trompeur, c'est que ce musée à Abu Dhabi va s'appeler le Louvre d'Abu Dhabi, mais ça, c'est pour mettre en avant une certaine renommée évidemment de ce musée-là, mais c'est un projet de la France, en fait.
Vivien.
Et donc, pour continuer sur ce projet, ça a vraiment un milliard qui arrive. Bon, en ce moment, on est en train de voir comment les enveloppes vont être distribuées entre les différentes institutions qui vont justement prêter des œuvres à Abu Dhabi. Mais ce qu'ils veulent aussi mettre en place, c'est une véritable politique, on va dire, scientifique et culturelle grâce à cet argent. Par exemple, avec la mise en place d'un centre d'archives et de recherche spécifiquement consacré aux grandes institutions patrimoniales françaises comme le Louvre ou comme Versailles qui auront prêté des œuvres à Abu Dhabi. Mais là, en ce moment, on sait que cet argent arrive et on est en train de réfléchir comment est-ce qu'il va être réparti, puisqu'officiellement, le 1 milliard doit être consacré entièrement au ministère de la Culture.
On ne pourrait pas envisager finalement dans ce système d'aliénation ne voir plutôt que des prêts dans des pays étrangers, des prêts à long terme d'œuvres qui dorment dans les réserves et plutôt que le Trésor national, puisque le Trésor national, il ne faudrait peut-être pas y toucher et qu'il reste en France. Mais ça ne serait pas plus intéressant justement que ces collections, au lieu d'être vendues, partent dans des pays étrangers en prêt.
Bon, je pense qu'on peut élargir. Enfin, y a trois dimensions. À mon avis, il y a une dimension économique ou de société marchande. Une dimension qui est la restauration, enfin, des œuvres d'art, et puis une dimension également de la mémoire, et notamment de la mémoire nationale. Alors, au niveau d'abord économique, de la société marchande, on est dans une mondialisation, avec un droit à la culture, enfin, qui est mondial, et que, bon, le principe d'échange que tu évoques, Marion, me paraît, enfin, est une bonne solution, mais je pense qu'elle est déjà réalisée, enfin, comme par des musées comme le Louvre. Mais dans une structure économique, on peut aussi penser que des œuvres qui ne sont que le Louvre, par exemple, ne peut pas financièrement restaurer, pourraient être vendues et restaurées, notamment avec l'idée, par exemple, de créer un centre scientifique et artistique, enfin, pour pouvoir avec des artisans, enfin, qui sont de tradition française ou pour les œuvres françaises, mais il ne s'agit pas que d'œuvres françaises. Il s'agirait d'un partenariat qui serait international. Et ces œuvres, enfin, au niveau du Louvre, elles pourraient également pouvoir faire rayonner, enfin, la culture française, en revenant ici au problème de la mémoire. Bon, la mémoire française, ça me fait un peu penser au problème un peu actuel des acquis sociaux. On ne touche pas aux acquis sociaux. Bon. On ne touche pas à la mémoire de la France. Mais je crois que lorsqu'on parle de la mémoire, on peut rentrer aussi un peu en psychologie, c'est-à-dire que la mémoire, c'est pas quelque chose de mort. C'est pas quelque chose qui est passé. La mémoire, il y a une partie vive de la mémoire. Et la mémoire, c'est peut-être ce que nous sommes aujourd'hui, qui est peut-être déjà inscrit par ailleurs, Et à mon avis, cette mémoire, si on ne la fait pas vivre, si on laisse les œuvres que le Louvre n'a pas le moyen, par exemple, de restaurer, et qu'on les laisse mourir, à mon avis, c'est au niveau économique une aberration. Voilà enfin les trois points enfin, que je voulais soulever sur...
Ségolène ?
Oui, moi je voulais ajouter quelque chose parce que depuis le début, on parle que du Louvre. Or, il y a beaucoup de musées en France autres que le Louvre. Et il y a beaucoup de musées, par exemple, qui très certainement n'échangent pas du tout avec l'étranger, puisque même, probablement, ils n'échangent même pas avec d'autres musées français, parce que soit peut-être leurs collections ne sont pas assez intéressantes pour être demandées par des musées étrangers. Donc finalement, c'est vrai que dans cette loi, on pense surtout, enfin dans cette proposition de loi, on pense surtout aux grands musées, mais finalement, le problème se pose aussi pour les petits musées. Qu'est-ce qu'il y a dans leurs réserves ? Et puis, comment ils vont faire, eux, pour valoriser leurs réserves par rapport à un musée comme le Louvre, par exemple ? C'est vrai que le problème de la vente de leur collection ou de l'échange de leur collection ne se pose pas de la même manière. Eux, ils auront peut-être plus de mal à faire des échanges qui soient intéressants. Est-ce qu'ils auront moins de mal à vendre ? Je ne sais pas, mais je pense qu'il ne faut pas oublier cet aspect-là aussi. C'est qu'en France, il y a beaucoup de musées en province et même à Paris, autres que le Louvre, qui n'ont pas les moyens du Louvre non plus.
Ils n'ont pas les moyens du Louvre et effectivement, on avait discuté aussi sur le problème des réserves, où la plupart des musées ne sont pas, finalement, il n'y a pas d'inventaire véritable des réserves. Alors cette idée-là a déjà été soumise dans un rapport de 2005 qui est sur l'éthique de la conservation et l'enrichissement du patrimoine culturel et qui avait été donné au ministre de l'époque qui était Renaud Donnedieu de Fabre. Et dans ce rapport, ils expliquaient qu'effectivement, il n'y avait aucune mesure faite pour que les réserves soient... que l'on travaille sur les réserves et qu'un inventaire soit fait. Et donc l'idée était qu'il fallait monter un service, pourtant il y a déjà un service de l'inventaire en général, mais il fallait monter un service qui ne se règle exclusivement que pour les inventaires des réserves. Alors moi ça m'a amusé d'avoir cette idée en 2005, puisque je vois qu'on est en 2008... Mais il n'y a pas encore eu vraiment un bouleversement à ce niveau-là. Alors, moi, ce qui m'a le plus amusé, c'est de savoir que les Hollandais ont eu exactement le même problème. Et eux, ils ont décidé de geler pendant plusieurs années toute action de valorisation et de développement culturel pour se concentrer sur les moyens de l'inventaire. Pour dire que ce n'est pas spécifiquement un problème français, c'est aussi un problème dans chaque pays européen. On ne sait pas ce qu'il y a dans les réserves. Alors, comment vendre quand on ne connaît pas les réserves et qu'on a aussi un problème, effectivement, comme tu le disais, Claude, de sérieux problèmes de restauration.
Oui, parce que justement, derrière cette question de l'alignation possible des œuvres d'art, il y a deux problèmes. Le premier, comme on l'a dit, c'est le problème du financement de la culture et des musées en France, puisqu'une grande partie de l'enveloppe budgétaire du ministère est réservée, ou on va dire, à l'entretien des infrastructures. Mais il y a aussi le problème de la visibilité. Puisque justement, à cause du manque de circulation qu'on peut constater entre certains musées, on parlait de grands cas internationaux possibles entre différents pays, mais déjà, ne serait-ce qu'au point de vue même de la France, il y a un véritable déficit, enfin, il y a beaucoup d'œuvres qui ne circulent peu ou pas, et ce qui fait que généralement, le musée paraît une grande institution qu'on pourrait juger comme froide et inaccessible, puisqu'il y a un défaut de communication, déjà par rapport à ses réserves. Ce qui fait qu'il y a un mythe qui s'est créé depuis des décennies autour des réserves. Certains musées ont commencé, grâce à la personnalité de leurs conservateurs, à faire de véritables inventaires internes, qu'on appelle des récollements, et ça permet justement de mieux se rendre compte de ce qui se passe dans les réserves, qui ne sont pas toujours aussi fournies qu'on le croit, et qui ont souvent des œuvres quand même mineures. Il n'y a pas forcément de chefs-d'œuvre non plus dans les réserves. Et justement, là, le cas de la Hollande est très intéressant, puisqu'on on pourrait essayer de profiter d'années à venir pour faire de la même manière qu'en Hollande un gel d'une multiplication d'acquisitions par les musées pour, au point de vue national, essayer de faire un récollement complet qui pourrait être centralisé par le ministère de la Culture pour qu'on, avant de parler encore et encore d'aliénation ou pas, de voir exactement ce qu'il en est. Et quand je dis stopper des acquisitions, c'est dans les années qui ont été bloquées. Il y a des œuvres très importantes ou du mobilier qui repasse et que la France a besoin d'acquérir. Il faut que là, ce soit possible, bien sûr.
Alors, moi, je voulais revenir sur les musées régionaux. On a parlé des musées, on a abordé un petit peu la question des musées régionaux. Et je vais vous citer l'exemple de ce qui s'est passé à Orléans. À Orléans, il y a eu le 100e salon de la Société des artistes orléanais et le lauréat a eu la chance d'avoir une de ses œuvres acquise par un des musées de la ville. Et cette année, ce fut Jacques Dauphin. Alors, bien sûr, Jacques Dauphin ne va pas devenir un des grands peintres contemporains de l'art français, mais pour les gens d'Orléans et de la région d'Orléans, il est finalement le représentant de l'art orléanais de 2007. Et on se pose la question, effectivement, ce tableau va arriver dans les collections du musée. Les gens d'Orléans se posaient la question avec l'aliénation. Finalement, on a tout un panel de peintres locaux, de peintres régionaux, dont on a des œuvres. Et si finalement ça ne plaît pas aux conservateurs du musée au bout de quelques années, est-ce que tout ce patrimoine régional risque de disparaître ? La question est posée.
Et enfin, quand même, l'aliénation plutôt des œuvres, si tant est qu'on la prononce, se ferait dans un cadre. Donc évidemment, ça n'est pas laissé à la simple appréciation d'un conservateur qui serait pris d'une envie soudaine de vendre une œuvre. Puisque je rappelle que la loi de 2002 sur les musées de France prévoit déjà une procédure de déclassement des œuvres. Le ministère a communiqué que ça ne s'était jamais produit depuis 2002 d'ailleurs. En réalité, dans les musées, on sait que pour certains types d'œuvres, il y a eu quand même des procédures de dessaisissement. Tout ça pour dire que l'aliénation, si tant est qu'elle existe, se ferait dans le cadre d'une commission, serait prononcée après avis collégial de scientifiques sur des critères, à mon sens, scientifiques. Je pense pas qu'il faille céder un peu à la panique en se disant qu'une personne pourrait dilapider le patrimoine national ou même une partie du patrimoine comme ça sur des coups de tête.
Oui, je voulais aller dans le sens de Karine. Mais en fait, je pense que ce qui a créé la levée de bouclier là, au moment où ils ont commencé à parler de cette aliénation des œuvres, c'est aussi que c'est vrai que la proposition de loi est tellement succincte que c'est la porte ouverte à plein de choses et surtout à... On ne sait pas à quoi, finalement. Donc, c'est vrai que ça demanderait surtout à ce qu'ils précisent cette loi, parce que Karine a raison, bien évidemment, qu'un conservateur ne pourra pas décider tout d'un coup qu'il va vendre toute une collection. Mais c'est vrai que dans cette proposition de loi, finalement, il y a beaucoup de choses qui mériteraient d'être précisées. Et je pense que, de toute façon, il fallait qu'il y ait une levée de bouclier, ne serait-ce que par principe, pour qu'en fait, il voit quand même qu'il y a énormément de choses à préciser dans cette proposition.
Bruno ?
Alors, on parle toujours de ces musées. Je voudrais revenir un peu sur ces musées régionaux qui ont peu de moyens. Donc, on va sortir du Louvre. Pour prendre un exemple actuel, c'est l'exposition au Petit Palais de Jean Cariès, qui est un sculpteur du siècle dernier. Ce sculpteur-là, il n'avait pas été acquis par la ville de Paris. Ce qui a fait la collection, c'est un don privé. C'est-à-dire que, comme beaucoup de musées, notamment à Paris, notamment le musée du Moyen-Âge à Cluny, ce sont des collectionneurs privés qui ont aimé des œuvres, qui ont collectionné des œuvres qui étaient dans le domaine public, qui se vendaient, qui ont fait les fonds des musées. Et aujourd'hui, on voudrait dire que les œuvres d'art qui sont dans les musées, c'est une collection qui ne bouge plus, qui ne s'échange plus, qui n'évolue plus. Parce que ce que je me rappelle, moi, des collections de timbres que je faisais étant enfant, c'est que ce qui était intéressant, c'était justement de pouvoir en échanger avec des camarades, en sortir de la collection, les réorganiser, les rechanger de place, et pas uniquement les accumuler. Et je trouve que geler, faire l'inventaire avant de toucher à quoi que ce soit, c'est un peu ce qui est fait depuis un siècle, c'est-à-dire on ne touche plus à rien. Et c'est pour ça que je trouve que cette proposition, elle a le mérite et d'être succincte pour que justement elle puisse s'adapter, et que ce soit pas un texte énorme qui serve pas, et qu'en plus elle fait bouger les choses, elle fait réfléchir, en étant sûr qu'il y aura plein de gens qui sauront mettre des garde-fous pour éviter des catastrophes.
Ségolène.
Oui, ce que je voulais dire juste, c'est que... Donc, par rapport à ce que vous disiez, en fait, moi, ça ne me pose pas tant de problèmes que ça, que les œuvres soient vendues, si par exemple c'est vendu entre des musées, parce qu'il y aura toujours un moyen pour le public de les voir. La difficulté, en fait, c'est si ces œuvres sont achetées par des propriétaires particuliers, parce que dans ce cas-là, elles vont rester donc, chez ces particuliers, et de ce fait, le public ne pourra plus les voir. Donc, moi, ça me semble quand même poser un problème par rapport à ça.
Elles vont se revendre. Toutes les œuvres d'art repassent sur les marchés tout le temps, et c'est justement là où on sait si elles sont importantes ou pas. Elles sont appréciées parce qu'elles sont justement remises dans un circuit, remises dans un choix où des gens se battent ou se battent pas, mettent de l'argent pour les avoir.
Oui, tout à fait. Mais alors, si ça se fait par exemple dans moins d'une génération, c'est très bien parce qu'elles reviendront sur le marché et les gens pourront la voir. Mais si ça se fait sur plusieurs générations, ça veut dire que pendant des années, il y a tout un public qui n'aura jamais accès à ces œuvres-là. C'est peut-être un peu dommage.
Il aura accès à l'absence de cette œuvre-là.
Moi, j'aurais rentré à nouveau dans le Louvre, sortir des musées régionaux et rentrer à nouveau dans le Louvre. Moi, je suis un visiteur régulier parce que j'ai une entrée libre, enfin, au Louvre. Et puis, c'est mon occasion de passer rive droite par le pont des Arts, en face du quai Conti. Enfin, bon, c'est une balade très agréable en passant par la cour Carré. Puis déjà, je suis dans un musée. Bon, et si, en y allant, enfin souvent, quelquefois j'y vais avec un livre, et puis je m'installe sur des banquettes, tranquillement, dans des décors qui sont somptueux, avec le souvenir du premier roi de France, François Ier, qui a inauguré, enfin comment dire, le Louvre. Et dans ces balades, je suis sûr que je suis pas un érudit du Louvre, c'est-à-dire que je regarde, mais pas forcément l'auteur, mais je me laisse baigner un peu par l'ambiance du Louvre. Mais si j'ai cet œil curieux, non plus sur les œuvres d'art, mais sur le public qui le fréquente, eh ben, je vois que les gens se précipitent vers Mona Lisa, où il y va y avoir 60, 70 personnes à chaque fois que je me rends, et puis peut-être le Velázquez de Canard, enfin, qui est juste derrière, avec sa dimension enfin, grandiose. Et le Louvre, en fait, est beaucoup plus statique, mais par les œuvres mêmes qui sont à l'intérieur. Donc quand on pense au fond du Louvre, je me demande quelquefois, sans doute exagéré, mais enfin bon, peut-être que dans l'exagération on peut dire des choses, que si simplement on mettait Mona Lisa enfin, dans le musée du Louvre, ça suffirait.
Mais c'est bien le problème d'ailleurs, oui. c'est ce qui est dit. En fait, qu'est-ce que vont voir les gens? La Vénus de Milo, on va voir, puis bon maintenant il y a Da Vinci Code, donc on va voir ce qui concerne Da Vinci Code. Mais c'est ce que disait aussi une des conservatrices du Louvre. Il y a deux tableaux majeurs dans la pièce où il y a la Joconde. On ne regarde que la Joconde, on ne regarde pas celui qui est à côté. Et pourtant Dieu sait qu'il est aussi important que la Joconde.
Tout à fait, voilà. Absolument plus important. Mais...
Oui, mais déjà juste pour revenir sur ce que vous avez dit, le Louvre a été comme forteresse, date de Philippe Auguste, et les premières collections dedans sous Charles V, donc un petit peu avant François Ier. Mais sinon, là, c'est le problème qu'on vient de soulever, des très grands musées nationaux qui ont des œuvres très importantes, c'est qu'ils sont écartelés entre deux publics. Le public international qui vient en visite dans le pays, ou alors, par exemple, pour le cas du Louvre, un touriste français qui découvre Paris, donc qui passe par le Louvre, voir les plus grandes œuvres.
Juste un détail, je crois que c'est 5 millions d'entrées pour le Louvre chaque année. 7
millions. Ils sont même arrivés l'année dernière à plus de 8 millions.
8 millions.
Et sur les 8 millions, il y a 50% de primo-visiteurs. C'est quand même assez important. Et voilà, donc ils sont écartelés entre les visiteurs qui viennent pour les très grandes œuvres et pour le public local. Et ce qui entraîne aussi un problème sur la réception et la mise en valeur des œuvres. Ce qui a été beaucoup, par exemple, critiqué au sujet de l'installation muséographique autour de Mona Lisa, qui a posé beaucoup de questions.
Alors moi, je veux revenir juste à l'exposition de Jean Carrier. Moi, ce qui me pose problème, par exemple, pour l'exposition de Jean Carrier. Jean Carrier, c'est un sculpteur potier. Pendant 100 ans, la collection est restée dans les réserves. On n'y a pas touché. Alors peut-être, est-ce que c'est par un besoin justement de démontrer que dans les réserves, il y a des choses extraordinaires et qu'on ne peut pas vendre comme ça parce que les collections n'ont jamais été vues par le public ? Ça me pose quand même quelque chose au fond de moi. Là,
Je dirais presque sur ce cas, c'est un mauvais coup que lui ont fait ses amis 10 ans après sa mort, que de léguer la quasi-totalité de son œuvre à un musée qui l'a enfermé 3 ans après dans les caves. Donc cet artiste qui aurait pu être connu, pas de son vivant mais peu après, donc de son époque, il n'a pas été. Et il est resté anonyme.
Enfin, il a quand même gagné, il a quand même remporté énormément de prix. Comment ça s'appelle, de prix dans les expositions.
Sur un autre exemple célèbre, on va prendre Van Gogh, dont la grande partie de la de l'œuvre, on va dire presque la moitié de l'œuvre, voire plus, est à Amsterdam. Donc ça ne se diffuse pas. Je pense pas que les Hollandais vont vendre dans les Van Gogh, de même que nous, on va pas les vendre. Mais c'est un peu des exemples de ce qui arrive peut-être aujourd'hui à des artistes qui seront reconnus demain, c'est-à-dire que leurs œuvres ne sont plus brassées, je dirais, et montrées à plein de gens sous prétexte de les conserver et de dire qu'elles vont être vues par un public dans un musée. Elles ne voyagent pas, elles ne se diffusent pas, elles ne font pas objet d'envie de particuliers. Moi, je préférerais que des œuvres voyagent, quitte une génération après, à ressortir, parce qu'on se rend compte que c'est un artiste majeur, et à ce moment-là, les musées les achèteraient à leur juste prix, et non pas des bouchées de pain.
Alors, à propos justement de voyage, je sais que Bruno est très intéressé par le projet d'Abu Dhabi. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, Jean Nouvel, donc cet architecte français qui a beaucoup de mal à construire en France, a heureusement quand même quelques appuis et beaucoup de talent, puisque je pense que c'est un des plus grands architectes actuels qu'on a la chance d'avoir à Paris quand même, s'occupe donc de ce projet de musée, donc de la construction de ce musée, et a fait une œuvre absolument étonnante qui par elle-même va déjà porter une part du rayonnement du Louvre, c'est-à-dire un bâtiment qui se veut le musée du 21e siècle. Je pense que le bâtiment lui-même sera un objet de culture et un objet d'attraction, au-delà même des œuvres qui seront exposées dedans. Donc on pourrait presque exposer du deuxième choix, on aura des visiteurs sur ce musée. Et donc ce bâtiment, la construction doit commencer dans 2 ans, et si j'ai bonne mémoire, doit être fini 3 ans après, ce qui me semble assez normal dans cette région où on construit assez vite.
Et quelles sont les est-ce que vous connaissez les caractéristiques du bâtiment, à part la grande carapace de tortue ou de coupole, j'ai pas trop dans l'œil. Donc.
Oui, c'est un grand dôme qui se veut à la fois, qui a plusieurs fonctions, qui a une fonction de protection contre le climat qui est beaucoup plus rude que chez nous, qui a une symbolique de rappeler les tentes nomades de ces pays, et qui également traite la lumière, c'est-à-dire fait une espèce de pénombre générale qui va permettre justement de mettre en valeur les œuvres par des éclairages que j'espère subtils, mais j'en doute pas un instant. je pense que même par rapport à ce bâtiment, le nom du Louvre n'aura pas à rougir d'être sur ce bâtiment.
Il faut dire que le marché de Abu Dhabi au niveau des touristes est quand même assez faramineux.
Alors Dubaï, ils essayent depuis des années, tout le monde le sait, d'être un centre aérien, un hub, on va dire un hub gigantesque, puisque les routes sont plus courtes entre l'Asie et l'Amérique quand on passe par Dubaï que quand on passe par l'Europe. Donc c'est pas uniquement un enjeu culturel, c'est aussi un enjeu financier extrêmement important. Et donc l'aéroport de Dubaï va sans doute prendre des parts de marché très importantes sur ce rôle de hub mondial entre l'Asie et l'Amérique du Nord, côte Est, hein, bien sûr.
Alors on a parlé beaucoup d'œuvres, finalement, on parlait de la Joconde et autres, mais moi j'aimerais bien qu'on aborde le sujet des fracs, alors de tout ce qui comporte art contemporain. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, juste qu'est-ce que c'est ?
Oui, il y a deux choses différentes. Il y a le FNAC et les FRAC. Alors, le FNAC, c'est donc le Fonds National d'Art Contemporain. Donc, c'est une institution qu'on peut qualifier d'État, qui sert à administrer la collection d'art contemporain qui appartient à la France. Et on peut dire qu'en ce moment, elle comporte à peu près plus de 70 000 pièces d'art, que ce soit des photographies, de l'art décoratif, du design, enfin tout ce qui touche aux différentes composantes de l'art moderne. Il y a également, donc exactement pour le même genre d'œuvre, ce qu'on appelle donc les FRAC, c'est les fonds régionaux, là pour le coup, d'action culturelle, mais qui dépendent plus particulièrement des collectivités locales. Donc ce ne sont pas des musées, ça il faut bien faire la différence, ce sont plutôt en fait des dépôts qui appartiennent à l'État ou à ses délégations, qui ont donc différentes missions. La première, c'est d'acquérir des œuvres contemporaines d'artistes vivants, qu'ils soient français ou étrangers. C'est ce qu'on constate en compulsant les inventaires qui sont par exemple mis en ligne sur Internet, puisque pareil, même pour le FNAC, la majorité des œuvres sont le fait d'artistes étrangers. Donc la première mission est donc comme ça d'acheter des œuvres auprès des artistes vivants, en particulier pour aussi avoir un rôle de mécénat, pour susciter la création et soutenir les artistes qui ont beaucoup de problèmes, on va dire, financiers ou pour être aussi reconnus sur la scène publique. Et le second pôle de leur mission, c'est justement de diffuser ces œuvres, de diffuser la culture contemporaine en organisant des expositions avec les administrations locales, ou alors, là vraiment, puisque c'est le seul moyen pour les voir, d'organiser de véritables prêts et partenariats avec des musées ou dans le cadre d'expositions. Voilà, pour
Est-ce rapidement. Que les FRAC essayent, par exemple, lorsqu'elles achètent quelques œuvres d'un peintre, est-ce qu'elles essayent en même temps, pour essayer de faire monter un peu la cote du peintre, de créer des expositions avec des ventes de l'œuvre, mais qui ne leur appartiennent pas, qui a, enfin, des œuvres du peintre? Par exemple, ils achètent 3 ou 5 tableaux de Dupont, et en même temps que l'achat des œuvres de Dupont, il présente une exposition de vente de tableaux du peintre. Est-ce que ça se fait ?
Il ne me semble pas trop. Dans l'ensemble, ils font surtout des expositions qu'on pourrait qualifier d'expositions annuelles sur l'ensemble de leurs acquisitions. Certaines FRAC font des expositions vraiment thématiques sur un artiste ou un courant contemporain, mais en général, ce ne sont que des œuvres qui leur appartiennent ou qui se sont fait prêter pour compléter. Mais prêtées généralement par des institutions, pas par des œuvres vendues ou des particuliers.
D'accord. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Claude, qui est peintre, de ces mouvements comme les FRAC et le FNAC ?
Je trouve que, étrangement, ça ressemble beaucoup à des structures de musées classiques. Et que même donc, au niveau des FRAC et au niveau de la FNAC, il y a peu d'échanges. Une exposition annuelle avec toutes les œuvres. Alors souvent, quand on parle d'art contemporain, bon, on parle plutôt de manifestations qui sont éphémères. Enfin, souvent, c'est une prise en possession des lieux avec des œuvres d'art qui peuvent être placées, mais qu'à des moments qui font partie de concepts et où l'œuvre par elle-même, lorsqu'elle est exposée, comme objet ensuite à conserver, est déjà difficile parce qu'il perd de son concept. Parce que dans le concept, il y a quelque chose qui est de complètement intellectualisé et où l'œuvre d'art, en fait, échappe s'il passe dans des fonds et surtout s'il n'est pas échangé. Je crois que ça conduit à une conception de l'art qui n'est pas, comment dire, celle de l'art contemporain. Parce que l'art contemporain essaie justement de perpétuer la mort de l'art depuis Duchamp, depuis un siècle, on annonce, comment dire, la mort de l'art. Et l'impression que ça me donne, c'est que la FRAC la continue bien, quoi, la mort. Mais en même temps, dans la mort de l'art, cette idée intellectuelle décadente du nihilisme ambiant tel qu'on peut le vivre avec toutes ces manifestations splendides de masochisme et puis d'art vivant décadent, je crois que à force d'annoncer la mort de l'art toujours, et quand c'était au siècle dernier par exemple, quand c'était à la fin du 19e siècle, Baudelaire déjà disait de Manet que c'était un peintre décadent et que Manet finissait l'art et que les personnages ces personnages étaient tristes et que déjà ils préfiguraient une mort de l'art. Et je crois que le 20e siècle amène encore à cette mort de l'art. Et il me semble que l'idée, ça serait de passer de l'art contemporain qui, à mon avis, n'est pas si conceptuel, c'est-à-dire pas si intellectualisé, que ces œuvres ne devraient surtout pas être conservées, mais où on devrait surtout accélérer l'échange. si on veut conserver, comment dire, un concept, et qu'il me semble particulièrement judicieux, enfin aujourd'hui, qu'il y ait un comité de sages, avec par exemple des grands penseurs français. Bon, je vais prendre celui qu'on parle en ce moment, par exemple d'Edgar Morin. Bon, enfin, Edgar Morin, ça fait des années qu'on connaît Edgar Morin, c'est pas un fait d'actualité. Mais je pense à des gens aussi comme Henri Atlan, Jacques Bouveresse, donc à des philosophes, français, qui pourraient, avoir une notion, enfin, de cet échange d'abord, enfin, au niveau de l'art dans les musées, enfin, qui sont classiques, et puis aussi arrêter avec la décadence de l'art et de peut-être pas rentrer dans un constructivisme, mais peut-être de reparler de peinture. Je pense que dans les années 70, par exemple, avec le maniérisme français à la Sonia Delaunay, enfin bon, il y a eu derrière enfin des peintres comme Jackson Pollock aux États-Unis qui ont fait de New York enfin la place de la peinture de l'art contemporain. Et depuis, il y a une dilution avec un éternel peut-être retour à la peinture qui ne vient pas. Je pense qu'il serait temps de parler d'art postmoderne dans une société postmoderne. Alors là, par exemple, on pourrait revenir à des questions philosophiques, parce qu'au niveau scientifique, par exemple, il y a des tas de choses. Au niveau, par exemple, de la biologie, où les progrès ont été spectaculaires, des théories de la connaissance, les théories cognitives, où on pourrait des retours à d'anciens philosophes, enfin, où il n'y a plus, enfin, où cette mort de l'art n'est plus d'actualité, où les penseurs, enfin, scientifiques notamment, enfin bon, au niveau de toutes les sciences, et aujourd'hui à peine effleurées, enfin au niveau de la philosophie, on a dit que l'art devait toujours être en avant des sciences et puis des idées de la société. Il me semble qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Et qu'il serait temps de sortir un peu de cette mise en terre et puis de cette mort. Comment ? Bah, peut-être en peignant, par exemple, mais, et puis en faisant circuler les œuvres. Avec ce comité des sages, d'essayer de redéfinir un peu enfin, l'art par rapport à la science et par rapport à la philosophie, de mêler ces artistes, d'avoir un peu, bon, une méthode, hein, par exemple la méthode Edgar Morin, qui est en 9 volumes, qui explique que on peut faire dans les sciences sociales une méthode comme les sciences comme dans les sciences naturelles ou les sciences dans les sciences exactes, pour pouvoir renouveler les idées de la société. Il me semble qu'on pourrait arriver à ce comité des sages.
Bruno veut dire quelque chose.
Quand on parle de comité des sages au niveau du ministère de la Culture, ça me fait toujours éclater de rire, parce que il y a quand même ce précédent célèbre qui est donc le legs Caillebotte. Legs Caillebotte, qui était donc ce peintre parisien plutôt riche, qui avait une collection extraordinaire de ses amis impressionnistes. Et donc le comité des sages de ce qu'on n'appelait pas encore le ministère de la Culture, mais qui était donc les Beaux-Arts, s'était réuni et avait donc trié dans ce catalogue absolument impressionnant d'œuvres qui aujourd'hui sont dans tous les musées mondiaux et les plus grands, pour en écarter plus de la moitié. Donc s'il y a bien une chose dont je crois l'État ne doit pas s'occuper, c'est bien l'art. C'est un peu ce qu'on disait à l'époque après ça. C'est que le choix, il me semblait, les comités des sages me semblaient les plus mauvais sachants dans ce domaine.
Mais finalement, l'art contemporain, d'après ce que l'on voit au niveau du FNAC et des FRAC, l'art contemporain, on ne met pas tellement d'argent que ça dans les musées. Quand on compense que les achats de l'État représentent moins de 10% des acquisitions sur le marché d'art contemporain, ça veut dire que les œuvres circulent énormément, sont achetées et vendues par des particuliers et sont complètement en dehors finalement de l'État.
Ce qu'on peut voir avec le problème des FRAC et du FNAC aussi, c'est que par l'acquisition d'œuvres d'art contemporaine, on peut se demander dans quelle mesure ça ne fait pas double emploi avec les musées d'art contemporain qui commencent à prendre vraiment de l'importance, à Paris ou à Lyon par exemple, où il y a une mise en place déjà de biennales qui justement contribue à diffuser peu à peu et à sensibiliser la population à l'art contemporain.
Alors moi je me souviens, c'était il y a quelques mois, tu devais être là, Mélanie. Il y avait le directeur du musée du palais de Tokyo qui expliquait comment il avait commencé son musée. En fait, il se trouvait que le palais de Tokyo était fermé depuis plusieurs années, qu'il ne servait pas, et il a demandé le prêt du palais. Ils ont commencé par un étage à montrer des œuvres contemporaines et petit à petit, les gens sont venus visiter, ils ont ouvert un restaurant, ils ont ouvert... le palais de Tokyo est ouvert plusieurs jours par semaine jusqu'à minuit, il me semble. Et ce palais de Tokyo est entièrement privé. Il ne reçoit aucune subvention de l'État. Ils ont un aura sur l'art contemporain qui, paraît-il, est formidable. Il représente ce qu'est l'art contemporain en France.
C'est vrai, et c'est vrai qu'ils font beaucoup d'efforts au niveau pédagogique, par exemple, même pour la jeunesse, pour les jeunes enfants, par exemple en formant des animatrices qui sont capables de parler d'art avec les enfants au niveau de l'art contemporain au Palais de Tokyo. Et par exemple, je me souviens de rampes de lumière, là, par exemple, de centaines d'ampoules allumées, et demander à des jeunes enfants, une animatrice qui s'occupait d'art, de voir quel est le... la particularité de cette œuvre. Et les enfants trouvaient à tout coup qu'il y avait une de ces 100 lampes qui était éteinte. Et ça faisait un parcours qui était quand même très instructif pour des jeunes enfants. Et je trouve que justement l'art contemporain, ou les efforts en tout cas du Palais de Tokyo, pour le faire dans le sens de la pédagogie et de l'apprentissage de l'art pour les enfants, était une idée qui me paraissait à développer.
Oui, je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit... à propos du comité des sages, dans le sens où, donc Bruno, vous aviez l'air de dire que finalement, par rapport aux Lake Caillebotte, ils s'étaient plus ou moins trompés finalement dans leur choix. Et alors, moi justement, ce qui me pose problème par rapport à l'aliénabilité, c'est qu'entre guillemets, il y aura aussi là un comité des sages qui décidera quelles œuvres sont aliénables et lesquelles ne le sont pas. Et donc, est-ce qu'ils ne sont pas susceptibles de reproduire aussi ce que, par la suite, plus tard, on considérera comme des erreurs ?
Est-ce que ce n'est pas un risque à prendre, justement ?
Oui, non, mais peut-être. C'est vrai que c'est une question que je me pose.
Plutôt que de dire on touche à rien, on bouge à rien, on fait comme dans tout le reste en France, on change rien.
Oui, non.
De
oui,
peur de faire pire. Peut-être qu'on va faire mieux finalement.
Oui, ce serait bien.
Mais un comité des sages, c'est pas une institution. Évidemment, ce sont des gens qui peuvent être nommés, par les institutions, mais on peut imaginer quand même un comité des sages qui sont un rassemblement de gens qui sont là pour leur intellectualité et puis pour simplement pour leur reconnaissance au niveau professionnel. Et je me rappelle qu'il y a quand même des comités des sages qui ont parfaitement fonctionné. Je pense par exemple au comité des sages, j'ai oublié le nom du président, mais c'était au sujet par exemple du droit du sol, du droit du sang, de l'entrée de la nationalité française, et qui avait été retransmis à la télévision entièrement, et c'était un comité des sages qui simplement avait le droit d'expression et qui en fait développait au niveau du public d'une manière démocratique un débat avec après un retour au niveau de l'institution qui elle devait décider. Et je me rappelle de la qualité exceptionnelle de ces juristes et qui ont en plus avaient fait un effort au niveau pédagogique pour expliquer tous les tenants, tous les aboutissants de cette loi de la nationalité. Et je trouvais que c'était remarquable au niveau républicain d'avoir pu retransmettre ces émissions d'un niveau intellectuel et puis d'une vérité rationnelle qui était justement une idée sans doute à reprendre pour des sujets aussi intéressants et puis aussi instructifs que l'art en général et l'art contemporain.
Tout le problème de l'art est de savoir si l'art doit être jugé par les spécialistes qui sont donc les artistes ou s'il doit être jugé par la société qui est censée être celle vers laquelle s'exprime l'art et va l'art. Donc si on fait un comité des sages, quelque sagesse qu'il ait, ce seront des spécialistes qui vont juger d'autres... juger d'autres personnes de leur chapelle, on va dire. Donc si c'est à la société, si l'art s'adresse à la société, il faut que ce soit la société qui trie l'art avec les outils qu'elle a, à savoir le marché, et donc la diffusion... un peu aléatoire, un peu dangereuse, un peu risquée, entre les mains de tout le monde, ou si on la laisse, encore une fois, entre les mains de l'État censé être plus sage que nous. Je ne sais pas si... Oui.
Tu remarqueras, Bruno, que quand j'ai cité un comité des sages pour les artistes, J'ai parlé, j'ai cité trois noms, oui, Jacques Bouvresse, Henri Atlan et Edgar Morin, qui sont trois philosophes du langage.
Mais en quoi ils seraient plus
sages? Certainement pas des spécialistes de l'art. En
quoi des intellectuels, des spécialistes du langage auraient un bon jugement sur l'art? Ça me fait vraiment question, je ne vois pas très bien.
Alors moi, je vais vous donner une citation. C'est paru dans « L'État asphyxie-t-il les arts plastiques ?» C'est un article qui est paru il y a à peu près un mois et demi. Et Jean-Michel Meurice, qui est artiste peintre et cinéaste, soutient la thèse suivante. « L'État doit faire des choix. Ceux-ci doivent être opérés de la manière la plus ouverte et la plus généreuse possible. C'est cette ouverture d'esprit à l'inattendu, au non convenu, qui fait aujourd'hui défaut. Les choix sont trop souvent opérés au nom de l'État par des agents publics qui imposent sans contrôle des options personnelles, guidées souvent par leur seule ambition et très éloignées de la réalité de la création. » Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Ségolène?
Oui, moi je suis assez d'accord, dans le sens de toute façon il faut être réaliste, même s'il y avait un comité de sages très très bien composé avec toutes les personnes compétentes qui viendraient de différentes spécialités, il y a quand même une réalité, c'est qu'au final, il y aura quand même des institutions derrière qui auront leur mot à dire, qui pourront mettre un veto ou autre. Donc c'est évident qu'on peut pas non, enfin, il n'y aura jamais une liberté totale de ce comité des sages de toute façon.
Mais en fait, moi, je voudrais dire qu'on essaye justement dans les musées de limiter ce risque lié à l'appréciation d'une seule personne ou d'un petit groupe de personnes en encadrant les acquisitions et peut-être à l'avenir les cessions des œuvres par un projet scientifique et culturel qui définit une politique d'acquisition du musée. Qui est rendu public et qui est communiqué aux autres musées de manière à ce qu'il n'y ait pas de concurrence entre eux. Donc, si vous voulez, on essaye quand même d'encadrer au maximum et de limiter les risques. Bon, après, il est évident que, au parfait, personne n'est tenu, mais voilà.
Alors, moi, je vais mettre en dernière question. Je vais peut-être mettre un pavé dans la mare. Là, il est question actuellement, on parle de la télévision publique, hein, de France Télévisions. Il est question d'enlever les pubs au sein de France Télévisions et de finalement imposer les télévisions privées pour générer de l'argent à France Télévisions. Pourquoi, d'un côté, on veut enlever les pubs et imposer les télévisions françaises, les télévisions privées pour payer les œuvres qui doivent être créées au sein de France Télévisions? Et d'un autre côté, pourquoi veut-on vendre les œuvres des musées pour générer de l'argent pour acheter de nouvelles œuvres? Il n'y a pas une antinomie à ça?
Oui, parce que, en fait, toutes les lignes concernant la gratuité ou l'accès payant sont en train de bouger actuellement. Et ça se retrouve dans plusieurs domaines. Donc je pense qu'on n'en est qu'au début d'une sorte de processus comme ça d'interrogation ou du moins de mise en question de tout ce qui concerne la gratuité.
Des musées.
De beaucoup de choses dans notre société, le transport, les pratiques culturelles, mais il y a les questions des bibliothèques et on voit bien aussi avec l'accès par Internet. Les droits d'auteur, etc. Vous voyez, c'est en fait tout est en train un petit peu d'être bousculé là.
Oui, moi, les droits d'auteur au niveau d'Internet, c'est plutôt du piratage à ce niveau-là. Hein. Bien. Est-ce que vous avez une petite conclusion à donner à ça, Vivian?
Moi, j'aurais juste une chose à dire, parce qu'on parle de comité des sages ou de la société qui pourrait aussi faire sa culture. Mais il faut penser aussi à deux choses quand on parle de culture. C'est que la culture, elle n'est pas que dans le temps présent. Elle est aussi totalement héritée grâce à différents processus qui sont derrière nous, de constitution de collection, de dons, enfin de tout ce qu'on peut mettre derrière. Mais elle est aussi pour le futur. Il faut aussi qu'on la transmette. Donc il faut que quand même qu'on arrive à se donner aussi les moyens de transmettre la culture, par exemple, qui fait notre pays, qu'on souhaite aussi montrer à toute la population, diffuser d'un point de vue du rayonnement international. Il faut arriver à la préserver sans donner les moyens et en quittant des présupposés ou des jugements qui sont inhérents à notre époque. Et ce qui est le danger, par exemple, si on on prononce le fait que des œuvres peuvent être aliénables, de vendre quand même certaines œuvres de musées qu'on juge secondaires, mais qui peuvent être très importantes, comme on le voit régulièrement, de tableaux de grands maîtres, dont on a des copies. Et puis on se rend compte, après de nombreuses recherches scientifiques, eh bien qu'en fait, l'une des copies était l'original, et que le grand musée qui se targuait d'avoir l'original, ben, il n'a plus qu'à la renvoyer en réserve ou sur le pays à la vendre. Voilà.
Les Américains l'ont vendu.
Et la France, ça lui est déjà arrivé d'avoir comme ça de telles déconvenues dans un autre domaine. En 1883, la France et les Beaux-Arts avaient besoin, comme maintenant, vraiment d'argent pour la culture. Et ce qu'ils ont décidé de faire, ce que le Louvre a fait, ça a été de vendre l'ensemble de la collection des bijoux de la couronne, enfin ce qui restait des différents épisodes révolutionnaires. Puisqu'à l'époque, on n'en jugeait pas l'utilité pour la culture républicaine de l'époque, ce qui se comprend tout à fait. Sauf qu'au fil des décennies jusqu'à maintenant, le prix de ces joyaux n'a fait qu'augmenter. La France n'en a plus que quelques petits reliquats dans la galerie d'Apollon. Dès que certaines reviennent en salle des ventes, le Louvre et l'État essayent de faire préemption et le plus possible d'en racheter, mais ça coûte tellement cher qu'ils n'y arrivent pas, et que le plus souvent, ça repart entre les mains de très très grandes fortunes, en particulier par exemple en Arabie Saoudite, où là, nous sommes sûrs que ces pièces qui font vraiment partie, qui faisaient partie de la culture française, mais qui ont un moment ont été vendues, et bien on ne les reverra plus pendant des décennies. Donc là, c'est seulement de la joaillerie, mais ça peut se retrouver dans beaucoup d'autres domaines de la culture.
Exactement. Ségolène.
Oui, je voulais dans le sens du lien, où moi il me semble que cette loi, quelque part, c'est un peu une vision à court terme, dans le sens où, effectivement, l'État veut quand même clairement se désengager du financement des musées. Donc, bien évidemment, les musées vont devoir se financer eux-mêmes, donc quelle est la solution? Ben, qu'ils vendent leurs réserves, puis après, quand ils auront vendu toutes leurs réserves, ben, comment ils feront? Donc c'est vrai que ça pose des questions aussi par rapport à ça. Moi, je crains que ce soit un peu vu à court terme, ce projet de loi.
Mais c'est pas aussi une mode actuellement, parce que l'on voit dans les musées où les collections présentées se raréfient, on privilégie un tableau ou un objet plutôt que d'en avoir 30. C'est pas justement ce problème de minimiser les collections permanentes dans les musées, et puis d'un seul coup de se retrouver avec énormément d'objets dans les réserves, et puis il faut s'en aller, quoi. Il faut les enlever.
Je vais être peut-être un petit peu dur, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, même au sommet de l'État, ce qu'on préfère, c'est la culture et les événements qui rapportent. Donc à quoi ça sert d'organiser toute une muséographie pour de très nombreuses œuvres que personne ne voit ou n'a envie de voir? Donc on fait tout autour des œuvres intéressantes. C'est pareil pour la télévision. On se rend compte que certains types d'émissions culturelles de très haut niveau n'attirent pas l'audimat. Donc si on les maintient, on les met en milieu de nuit et on laisse en prime time ce qui est peut-être moins intéressant, mais qui attire tout le monde. C'est là aussi où il y a un choix qui est à faire important pour la société de maintenant, mais aussi pour plus tard.
Mais donc, est-ce qu'il faut continuer à niveler par le bas?
Ce serait la réponse du jour.
Bien, mais écoutez, nous... Tu as quelque chose...
Conclure aussi, mais...
Mais vas-y, conclue, Bruno. Vas-y.
Non, moi, je crois que quand même, toutes les sociétés, enfin, la société française, toutes les sociétés occidentales, à un moment, elles ont eu ces choix à faire, ces choix dans les bâtiments, ces choix dans les œuvres, et que c'est pas si sûr que ça, que la dispersion de collections qui n'ont plus d'intérêt aujourd'hui, je le dis vraiment comme ça, qui n'ont pas d'autre intérêt que pour les spécialistes d'avoir sous la main, je dirais, sans avoir à se déplacer de musée en musée, l'ensemble d'une œuvre, soit une perte irréparable, et c'est peut-être plutôt une chance pour ces collections que de connaître une deuxième vie. C'est en ce sens-là où moi, l'aliénation ne m'effraie pas du tout, non pas dans un esprit de lucre. On fiche de l'argent, on pourrait presque les donner à des pays qui n'ont pas, par exemple, de fonds français. On ferait un paquet cadeau, on leur dirait, voilà, il y a 150 œuvres là pour votre musée national. C'est des trucs qu'on a chez nous, on n'en fait rien du tout, vous les accrochez, on vous les donne. Je suis sûr que ça rapporterait beaucoup plus que de dire, bon, alors on va les vendre un peu, ça fera un peu d'argent. Mais c'est en ce sens-là où moi, l'aliénation ne m'inquiète pas une seconde. Sachant que que les trésors nationaux, comme ce mot sort, là, seront toujours là. Et que les autres choses, bien, ça fait partie de ce qui accompagnait et qui n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, ce sont les chefs-d'œuvre. Ce qui est secondaire, c'est tout ce qui va avec. On peut en garder, on peut les trier, on peut en donner, on peut en acquérir. C'est pas très grave.
Mais comment arriver à faire la différence entre un trésor national, un chef-d'œuvre, puisque ce sont des jugements de valeur qui peuvent aussi évoluer?
C'est le temps qui a fait que la Joconde ou d'autres tableaux sont des trésors ne va pas revenir en arrière.
Mais il peut y avoir des effets de mode quand même. Ça, on le constate dans les cycles d'exposition, par exemple.
C'est le problème de l'art.
C'est quand même dommage de perdre les bijoux de la couronne.
C'est pas très grave, c'est que des petits cailloux.
Il y a 16 000 objets qui disparaissent des réserves dans les musées par an.
Voilà, et cela, et il y avait même un conservateur à la Bibliothèque nationale qui découpait les bibles juives du XIIe siècle pour les vendre à New York pour acheter.
Ouais. Il en a gagné 200 000 euros.
Des appartements. Donc, je veux dire que comme conservateur, il eût mieux valu que ces œuvres-là ne soient pas entre ses mains. Mais c'est un cas extrême, hein, on ne va pas généraliser ça, mais simplement, ce qui ne se voit pas, ce qui n'est pas montré, me semble plus en danger que ce qui serait montré même ailleurs.
Que ce soit en danger, oui, je suis d'accord, effectivement. Il y a un danger de, où les œuvres ne sont pas assez restaurées. Et Karine,
elle n'est pas d'accord,
Karine.
Enfin, oui, bon, il y a quand même une politique de restauration qui est poursuivie par les musées. Donc, bon, certes, il y a une amélioration dans la gestion des réserves. Ça, c'est évident à impulser, mais... Enfin, les œuvres en réserve ne sont pas en danger, quand même.
La vraie sauvegarde du patrimoine français, je dirais presque, c'est la numérisation, parce que ça le duplique, je dirais presque éternellement. C'est ce qu'ont compris les moines tibétains qui numérisent leur vieux papier, parce qu'ils se disent que ça peut disparaître.
Mais c'est ce que faisaient les moines à l'époque médiévale. Hein. Voilà. Ils écrivaient, ils recopiaient pour justement que ça continue à vivre.
Donc nous, vouloir à notre époque tout conserver dans les poches et dans les réserves, ça me semble pas très intéressant comme solution. C'est justement là, à mon avis, une courte vue et un effet de mode que de tout garder. Ouais.
On pourrait faire ça, justement, envoyer aux autres pays les images numérisées de nos tableaux.
Oui.
Comme ça, ils seraient vus.
Mais il faudrait des supports. Il faudrait déjà tous les numériser, ce qui n'est pas le cas.
Et là, il faut des fonds pour numériser. Hein.
Ben justement, on pourrait en vendre certains pour avoir des fonds pour les numériser.
Et franchement, moi, je préfère aller à Mazarine consulter un manuscrit du XVIIe siècle et le toucher, l'effleurer sur un coussin de velours que de regarder un support numérique.
Tout dépend aussi des manuscrits, parce qu'il y a justement beaucoup de manuscrits, par exemple, aux archives nationales ou à la bibliothèque nationale à Richelieu, qu'on est obligé de laisser en réserve, qu'on ne peut plus consulter. Et je vois pour mes études, lorsqu'on a un devoir à faire sur le support même, la texture du manuscrit, et qu'on nous sort la bobine du microfilm, là, bon, c'est, il y a aussi une raison de conservation. Mais on est obligé de garder des choses cachées pour justement, vraiment, pour le coup, sauvegarder l'œuvre. Bon, oui, le cas des manuscrits médiévaux, c'est extrême, certes.
Voilà, mais c'est vrai qu'il y a un gros besoin de numérisation au niveau des archives écrites. Moi, je donne un exemple, par exemple, quand je travaillais pour les archives nationales, pour le conservateur des archives de la marine, je faisais les inventaires de certaines séries, et j'ai eu des registres qui étaient du 18e, qui était presque neuf. On avait l'impression qu'ils sortaient, qu'ils avaient traversé le temps, ils étaient impeccables. Je suis revenue 15 ans après, j'avais vu un truc à cette époque-là et j'en ai eu besoin il y a 2-3 ans pour le voir. Le registre était interdit de communication parce qu'en trop mauvais état. C'est-à-dire qu'en 15 ans, on l'a foutu en l'air. Rien que les lecteurs des archives nationales. Ça pose problème quand même.
Donc maintenant, on limite le plus possible l'accès.
Voilà. C'est pour ça que moi je suis pour la numérisation des archives nationales, des archives de partout, pour que les documents soient le moins vus possible et moins abîmés.
Bah, je dirais au contraire, pour qu'ils soient le plus vus possible par le plus de monde, pour que les chercheurs n'aillent pas à Washington, n'aillent pas à Londres, n'aillent pas et viennent en France, ou le voient de loin, justement. Parce que c'est vrai que la bibliothèque Mazarine doit être très agréable quand on est à Paris et qu'on y va à pied, mais quand on habite à Tokyo et qu'on veut voir un manuscrit, à mon avis, s'il n'est pas là, on va aller le voir sur la librairie nationale américaine, et on aura raison.
Oui, bien sûr, mais enfin, c'est également une façon de penser aussi, hein, de prendre le manuscrit du XVIIe siècle et puis d'en faire une lecture. C'est une façon de penser qui est différente de la lecture numérique.
Je suis d'accord.
Bien, mais écoutez, nous avons été très bavards ce soir. Je tiens à vous remercier tous et puis j'espère vous retrouver bientôt. C'était Autre Radio, Autre Culture. Au revoir. Thank you.